bienvenue à vous tous et à vous toutes à l'écoute de Service Compris. En ce vendredi 8 mars, nous sommes toujours donc à Batibeau, un salon qui va s'achever dimanche et qui connaît un énorme succès. Aujourd'hui, Christophe Semet, Roger Delplace, Evelyne Berix, Luc Remac, Daniel Decan, Janine Stas, Marie-France Parmentier, c'est toute l'équipe qui nous tient compagnie. Alors le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui va certainement appeler un grand débat, qui aura des controverses, etc. On va parler un peu géobiologie, bioconstruction, enfin toutes ces choses un petit peu particulières qui font quand même partie de notre environnement quotidien et dans nos maisons. Et je voudrais d'emblée lire l'introduction d'un article qu'un magazine namurois, le magazine Steps, a écrit. Il s'agit de ceci. Néologisme, si l'on en croit les dictionnaires qui pour la plupart boudent le terme, on parle donc de géobiologie, pratique reconnue si l'on consulte les pages d'or qui lui consacrent une rubrique à part entière ou la littérature qui lui accorde une place de plus en plus importante. La géobiologie rallie un nombre croissant d'adeptes, bien qu'elle demeure toujours ignorée par la plupart des universités et par les milieux bien pensants. Phénomène de mode aux yeux des uns, approche globale dans la mouvance de l'écologie pour d'autres, pratique occulte à la lisière de la science ou médecine de l'habitat, thérapie ou démarche prophylactique, recherche d'harmonie et d'équilibre cosmique, prise de conscience, de responsabilité et d'autonomie. Autant de perceptions, d'approches pour cette discipline, tout à la fois nouvelle et ancestrale, rationnelle et intuitive, qui fait tour à tour sourire ou réfléchir. Elle passionne ou provoque, suscite l'intérêt, la curiosité, la crainte aussi parfois. Elle interpelle, ça et là, les ingénieurs, architectes, médecins, urbanistes, vétérinaires, mais aussi tout un chacun soucieux du bien-être. Voilà, je crois que c'est un résumé de ce que nous allons dire aujourd'hui, le bien-être dans nos maisons et dans nos habitations. Et nous avons une panoplie d'invités, et pas n'importe lesquels. Je vous les cite de gauche à droite, vais-je dire, par ordre d'entrée en scène. À mes côtés, Michel Boll, architecte écobiologue. À ses côtés, Jean-Marie Danze, consultant en biophysique, bien connu. Tout près de lui, Benoît Loupe, technicien en chimie et éco-biologie. Nous avons aussi un représentant chef de département à Laborelec, M. Bruno Jacquet, un représentant porte-parole d'Electrabel, Philippe Massard, et un architecte toxicologue en bâtiment, et oui, Pierre Pagnès. C'est par lui que nous commencerons. Pierre Pagnès, bonjour.
Bonjour.
C'est nouveau ça, architecte toxicologue en bâtiment. C'est un terme qui est apparu ces dernières années.
Absolument. En fait, il y a un certain nombre de pollutions dans les bâtiments qui sont bien connues, comme l'amiante dont on a beaucoup parlé. Mais il y a d'autres pollutions qui sont plus subtiles parce que moins connues ou plus difficilement perceptibles par tout un chacun. Et je crois justement que la toxicologie de tous les matériaux qui peuvent rentrer en compte dans un bâtiment est une chose qu'on doit étudier de plus en plus. Je pense pour ça à certains tapis synthétiques et à des matières synthétiques, surtout au niveau de la décoration, On pourrait parler aussi essentiellement de matériaux qui servent à protéger le bois ou les peintures ou tout un tas de colles toxiques. Mais il y a des choses aussi bien particulières, beaucoup moins mesurables, dont on parle de plus en plus. Et je pense pour ça à, en fait, les pollutions électriques ou électromagnétiques. Mais ça, peut-être que Jean-Marie Danze est plus à même que moi de parler de ce genre de pollution.
Oui, parce qu'il faut rappeler que l'électricité, bien sûr, a fait son entrée triomphale dans toutes nos habitations, et fort heureusement. D'ailleurs, que ferait-on aujourd'hui sans électricité? Elle nous éclaire, elle nous chauffe, elle nous permet de regarder la télévision, d'écouter la radio. Enfin, elle nous apporte un tas d'avantages, mais peut-être un peu trop rapidement. Alors, Jean-Marie Danze, votre opinion sur l'électrification, entre guillemets, intense de nos habitations?
L'électricité, comme vous venez de dire, a apporté la civilisation, on peut le dire. Il n'y a pas d'évolution sans électricité, n'est-ce pas? Ça, il faut être clair là-dessus. Mais maintenant, quand on développe une technologie, il faut la maîtriser. C'est-à-dire qu'il faut en voir les dangers, il faut en voir même les approches. Je me souviens qu'il y a 20 ans, quand on parlait d'amiante, moi j'étais à l'Institut de chimie à l'époque, on parlait d'amiante, tout le monde se moquait de nous. Or, nous avions fait débarrasser tout notre laboratoire de l'amiante qui s'y trouvait, et parce que ça nous faisait tousser, nous avions des tas de symptômes, et on les attribuait à l'amiante, à juste titre d'ailleurs, et tout le monde se moquait de nous, même au centre universitaire, on se moquait de nous. Et puis maintenant, aujourd'hui, l'amiante, c'est reconnu. Et comme par hasard, c'est la même personne qui a dénoncé l'amiante et les risques électriques. C'est un
un journaliste américain qui s'appelle Paul Broder, qui a découvert les risques de l'amiante il y a plus de 30 ans, qui les avait annoncés, et c'est lui aussi qui a annoncé le premier les périls de l'électricité, les dangers de l'électricité. Supprimer l'électricité, non, mais je répète, la maîtriser, c'est-à-dire construire des maisons de façon à ce que cette électricité soit bien à sa place et qu'elle ne nuise pas aux gens qui habitent la maison. C'est faisable. Avec les technologies modernes, c'est faisable. Mais là, il y a un problème de droit qui survient. Parce que si moi, je suis un individu et j'ai envie d'aménager ma maison de façon à ce que cette maison ne me pollue pas et ne pollue pas les habitants du voisinage, eh bien, je ne peux pas empêcher quelqu'un, au nom de l'intérêt public, d'installer une ligne à haute tension ou d'installer une ligne même à moyenne tension dans un trottoir ou bien une ligne à basse tension qui soit mal équilibrée en phase et qui engendre des champs magnétiques dans la maison que j'aurais aménagé parfois à grands frais pour ne pas être pollué. Donc ça, c'est un principe de droit et j'estime que là, il y a matière à légiférer. Il est grand temps qu'on légifère là-dessus. La liberté individuelle est entravée par une notion d'intérêt public qui finalement n'est plus une notion d'intérêt public.
Bien, alors je me tourne maintenant vers Laborelec, les spécialistes. Monsieur Bruno Jacquet, vous êtes chef de département là-bas. L'électricité, donc, on le dit bien, est indispensable à la vie d'aujourd'hui et fort heureusement d'ailleurs que nous l'avons pour nous aider dans tout. Je crois qu'on ne pourrait plus rien faire sans électricité. Monsieur Jean-Marie Danse, qui a écrit de nombreux ouvrages d'ailleurs sur le sujet, attire notre attention sur certains effets nocifs que peut avoir l'électricité quand elle est mal maîtrisée. Votre opinion et votre avis?
Mais je crois que M. Danse dresse un tableau très négatif des choses. D'abord, une première chose, je dirais que je n'aime pas beaucoup la comparaison qu'il fait entre les problèmes liés à l'amiante et aux champs magnétiques. Nous nous préoccupons beaucoup également au niveau du secteur électrique des effets possibles des champs magnétiques sur la santé et nous devons bien dire que, à l'heure actuelle, malgré le grand nombre d'études qui ont été réalisées à ce jour, il faut vous dire que actuellement, par semaine, il sort une nouvelle étude, eh bien, malgré toutes ces études, il est impossible de tirer des conclusions définitives. On peut tout au plus aligner un certain nombre de constats élémentaires. Il y a bien certaines études qui ont montré une association faible, mais réelle, entre certaines maladies et, je dirais, des proximités de lignes électriques ou bien des champs magnétiques élevés. Mais je dirais que ces études ne permettent pas de conclure, en ce sens que les résultats ne se confirment pas d'une étude à une autre. On constate notamment que certaines études ont mis en évidence une certaine relation, une certaine augmentation, une certaine association entre certaines maladies d'un type bien déterminé et les champs magnétiques. D'autres études ont montré, tout à fait similaires, ont montré que de tels effets n'existaient pas, pas d'association aucune pour ce type de maladie, mais ont trouvé une autre association pour un autre type de maladie. Donc, les résultats des études ne se confirment pas entre eux. Et d'autre part, on ne connaît actuellement aucun mécanisme biologique permettant d'expliquer une influence quelconque des champs magnétiques sur la santé. Alors, je dirais donc, je ne suis pas aussi pessimiste aussi que M. Danse. Il y a actuellement aussi des normes, des valeurs qui ont été définies au niveau international, des limites de champs magnétiques qu'il ne convient pas de dépasser. Eh bien, l'on se trouve toujours dans des habitations, mais très nettement en dessous de ces valeurs limites définies par les grands organismes scientifiques internationaux.
Merci. Jean-Marie Danse voulait peut-être apporter une réponse. On ne fera pas de polémique aujourd'hui, non, mais je pense que chacun peut s'exprimer.
Il n'y a pas de polémique, mais il y a quand même des choses qu'il faut mettre à leur place. Quand on parle de normes, il n'y a pas de normes. L'IRPA, l'Institut international de radioprotection, enfin l'Association de radioprotection, a proposé des normes. Elle a proposé des normes et comme elle est consultante de l'Organisation mondiale de la santé, elle a proposé ces normes à l'Organisation mondiale de la santé qui, je vous le dis en passant, se déclare incompétente actuellement en matière de ces champs basse fréquence. Nous avons écrit à plusieurs reprises à l'Organisation mondiale de la santé qui nous a chaque fois répondu la même lettre. Nous nous déclarons incompétents. De plus, l'IRPA nie les effets. C'est-à-dire que, comme M. Jacquet, l'IRPA dit non, il n'y a pas d'effet sur la santé. Donc il n'y a pas de raison d'avoir des normes, puisqu'il n'y a pas d'effet sur la santé.
M. Jacquet n'a pas dit tout à fait cela. M. Jacquet a dit qu'il y a eu des effets, mais
qu'il y a des doutes,
oui, il n'y a pas de
constance. Or, actuellement, il existe aux États-Unis. Il y a deux aspects. Il y a d'abord aux États-Unis une commission qui émane de l'Environmental Protection Agency et qui est la Commission nationale de protection contre les radiations qui est dirigée par un professeur de neurologie qui est le professeur Rosadé, qui est consultant de la Maison Blanche. Or, Rosadé dit maintenant, dans une indiscrétion qu'il a fait paraître dans la presse, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui a organisé sa propre indiscrétion, pour ne pas être court-circuité, pour ne pas qu'on puisse l'empêcher de diffuser cela plus tard, il dit maintenant nous devons arriver pour l'électricité à des normes à l'ARA, c'est-à-dire à des normes aussi basses qu'il est raisonnablement possible de le faire. Et pour ça, dit-il, dans les 10 ans à venir, nous devons arriver à une norme de 0,2 microtesla pour l'exposition par 8 heures de tous les habitants d'une ville ou des ouvriers, c'est-à-dire 2 milligauss, et ne pas dépasser cette norme dans les 10 ans à venir. Il faut y venir progressivement, parce que ça risque de coûter cher, dit-il. Mais actuellement, dit-il, avec toutes les études dont nous disposons, il n'est pas tout à fait de l'avis de M. Jacquet, j'ai ici le texte, avec toutes les études dont nous disposons, il faut maintenant être plus que prudent, ça devient vraiment une présomption, une nette présomption, il faut absolument réglementer. Il n'est pas le seul dans ce cas. Hier, est paru dans un journal belge de médecine,
voilà, qu'il a sous la main. Et... mais si vous restiez près du micro, Monsieur Dans, ce serait peut-être plus évident. Bah, vous voulez peut-être lire l'extrait?
C'est le journal, si vous voulez, en Belgique, c'est un journal d'épidémiologie, si vous voulez, qui est édité par le ministère de la Santé. Et il y a un article du professeur de Rieder. Et le professeur de Rieder a publié une étude, il est professeur à l'université de Gand, médecine du travail, il a publié une étude sur tout... toutes les sources de rayonnement et toutes les études antérieures qui ont été faites dans le domaine électrique. Et il dit maintenant, il est moins catégorique que Rosadé aux États-Unis, mais il dit il faut réglementer absolument l'exposition aux gens, aux champs électromagnétiques liés aux champs 50 Hz, donc aux 50 Hz au réseau d'électricité. Or, c'est un Belge qui dit ça. Les Suédois sont arrivés aux mêmes conclusions. Mais les Suédois disent, les syndicats suédois refusent qu'on leurs ouvriers travaillent à plus de 2 milligauss, 0,2 microtesla. C'est toujours cette même norme qui revient partout quand on parle de normes. Là, il y a des pays où on est en train de normaliser. La Belgique est en train de se mettre en retrait, mais enfin, peu importe. On est en train de normaliser dans certains endroits et je ne suis pas de l'accord d'avis de M. Jacquet. J'ai ici les textes qui le montrent.
Bon, M. Jacquet.
Très brièvement,
oui.
N'est-ce pas M. Dans se réfère toujours à certaines études qui viennent des pays nordiques ou bien de certains organismes. Je crois qu'il faut prendre ici en considération l'ensemble des études, n'est-ce pas ? Et c'est sur cette base-là qu'il va falloir à un moment donné décider. Actuellement, il y a trop de contradictions, trop d'incohérences entre les résultats des études. Il n'est pas possible de conclure. Et nous souhaitons qu'il y ait une intensification encore des études qui se fassent dans ce domaine. Et d'ailleurs, en Belgique, il y a actuellement un programme, vaste programme d'études qui a été entrepris par les universités belges pour cerner le problème. Et j'espère que dans quelques années, on en saura plus. Nous aspirons au niveau des électriciens à une meilleure connaissance des phénomènes, mais c'est prématuré pour prendre dès à présent des mesures.
Qu'en pense le porte-parole d'Electrabel qui est avec nous, M. Massard?
Je pense très simplement que, effectivement, il faut être très attentif et le secteur de l'électricité montre qu'il est très attentif à la chose, de par le fait qu'on débloque pas mal d'argent et pas mal de personnes au sein de la Borélec pour étudier le phénomène, mais également, pas rien que, parce qu'on pourrait nous dire, bon, on débloque, mais ce sont nos gens qui sont payés, donc on a également pris la relève de l'État fédéral,
oui,
qui auparavant soutenait les chercheurs des différentes universités, État fédéral qui a décidé d'arrêter le soutien des chercheurs, des équipes interuniversitaires, et Electrabel s'est spontanément proposé de prendre la relève de l'État fédéral et a mis sur la table de quoi en tout cas faire travailler une équipe pluridisciplinaire et interuniversitaire dans les deux parties du pays pendant 3 ans, et non pas pour faire des études statistiques et épidémiologiques, car la Belgique n'a pas les moyens de se payer ce genre d'études, mais faire des études sur les aspects biologiques et autres, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais toujours ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que M. Dans, que nous avons l'habitude de côtoyer, nous, Electrabel, un peu partout dans le pays, et certains auditeurs doivent certainement le connaître et me connaître lorsqu'on parle des lignes haute tension, j'ai connu l'époque, maintenant M. Dans critique Electrabel parce que Electrabel sponsorise, finance l'étude des chercheurs en disant, voyez, maintenant ils les payent, voyez, ils ne pourront plus dire ce qu'ils veulent, les scientifiques.
Quelque part, il y a du vrai là-dedans.
Oui, monsieur le maire, tout à fait. Il n'y a pas si longtemps, avant qu'Electrabel fasse ça, monsieur Danse, en public, dans les séances, à Aubange, ailleurs, nous critiquait, en nous attaquant, en disant, voyez, ils se foutent pas mal du problème, les électriciens, ils ne mettent pas un franc dans l'affaire. Et donc, quand on ne fait rien, nous sommes mauvais. Quand nous faisons, nous sommes mauvais également. Bon, nous avons simplement une attitude de citoyen. C'est-à-dire que nous tenons simplement à remplir notre fonction de service d'utilité publique et à être attentifs. Et s'il est effectivement clair que la société est attentive aux problèmes des lignes haute tension, aux problèmes des champs électromagnétiques, eh bien nous sommes attentifs aux problèmes et nous tâchons en tout cas de faire le mieux possible et de prendre les mesures qui soient économiquement raisonnables aujourd'hui, non pas économiquement pour qu'Electrabel se mette de l'argent dans la poche comme on a tendance à véhiculer l'idée, économiquement de manière à pouvoir préserver un prix du kilowattheure qui reste compétitif pour les entreprises belges et qui préserve l'emploi dans notre pays. Car si on veut effectivement, comme l'a dit très bien M. Dans, il y a moyen de faire des tas de choses encore, mais ça coûte énormément d'argent. Ça viendrait gréver le prix du kilowattheure et ça mettrait en péril l'équilibre économique. Je rappelle simplement pour les auditeurs, et je terminerai là-dessus, qu'en Belgique, 56% de l'électricité est consommée par le secteur industriel.
Service compris, Fréquence Wallonie, Michel Lemaire.
Retour à Batibot pour la suite de ce débat bien intéressant et ô combien utile au service des auditeurs sur des nuisances dans les habitations, dans les maisons et autour des habitations et des maisons, avec évidemment l'aspect électricité, les ondes, ces choses qui nous échappent parce qu'on ne les voit pas, on ne sait pas très bien. Alors nous avons eu beaucoup d'avis très différents et divergents d'ailleurs. Je crois que chacun a le droit de s'exprimer ici, c'est l'objectif de Service Compris. À vous de vous faire votre idée et puis de vous informer encore si vous le souhaitez. Mais nous avons demandé à un architecte écobiologue, Michael Boll, qui est à nos côtés, de nous donner un petit peu son opinion. Il a écouté les divers avis. Qu'en pense-t-il, lui ?
Eh bien, la position de l'architecte est assez délicate, parce que finalement, c'est agréable de voir qu'il y a des gens qui sont l'un contre l'autre quant aux pollutions, mais finalement, nous devons essayer de réaliser des maisons qui soient saines. Le problème de la pollution électrique est un des cofacteurs, parce qu'il y a aussi la toxicité des matériaux, hein, les solvants, les peintures, etc. Et je crois qu'en tant qu'architecte, nous devons faire avoir une attitude préventive et ne pas prendre sur ce débat une position bien nette. Et l'architecte doit de toute façon, dans ses plans, faire l'étude de l'électricité. Il va devoir soumissionner tout. Alors pourquoi, lorsqu'on fait les plans, ne pas prendre un peu de temps pour réfléchir à la disposition des points lumineux, des prises? Et par exemple, on nous dit, voilà, soyez attentifs aux pollutions électromagnétiques, prenons une distance de 75 cm par rapport à la tête de la personne qui dort. Donc faisons une implantation logique en fonction de ça, ne passons pas des câbles derrière des têtes de lit, par exemple. Alors il existe d'autres techniques aujourd'hui, on nous donne des câbles qui n'ont pas de champ électrique ni magnétique. Pourquoi ne pas les utiliser dans la maison? C'est quand même préventif, même si tout ce qu'on nous dit aujourd'hui n'est pas tout à fait exact quant au danger vis-à-vis de la santé des gens.
Donc si on n'en est pas sûr, on prend quand même des précautions comme si.
Mais oui.
Je crois que c'est mieux, effectivement.
Par exemple, si vous avez une chambre qui est au-dessus d'une salle à manger, eh bien on a l'habitude de mettre un point lumineux au centre de la pièce et ça correspond peut-être à l'emplacement de votre lit. Alors pourquoi ne pas étudier un autre système d'éclairage par des appliques ou bien des lampes décentrées pour éviter ce rayonnement?
Oui, je vais demander à notre autre invité, Benoît Loup, qui est technicien en chimie et écobiologie, ce qu'il pense de tout ceci, lui qui a écouté avec attention tout le débat depuis le début.
D'accord avec ce que M. Boll vient de dire et ce que M. Dans a dit précédemment. Je tiens à effectivement confirmer ce que M. Boll a dit. Effectivement, avant peut-être d'étudier la santé de quelqu'un, comme le disait Hippocrate dans son traité des eaux, des airs et des lieux, il faut étudier l'environnement dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la maison. Je tiens quand même à préciser, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, qu'il existe des études qui ont été réalisées sur des animaux en laboratoire et qui montrent, notamment une des dernières études assez révélatrices sur le sujet, qui a été réalisée par un certain Lecher en Allemagne. Cette étude montre qu'il y a des risques à partir de 2 mg d'intensité de champ magnétique, des risques de promotion, de développement de cellules cancéreuses. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut abonder et que, quelque part, une partie de la vérité se trouve. Parce que dire qu'un champ magnétique ou qu'un champ électrique va créer telle ou telle pathologie, va amener un cancer, je crois que c'est faux. Mais on sait actuellement que ça va favoriser son développement et amener, suite à des chutes immunitaires et des affaiblissements au niveau de l'organisme, des problèmes de santé divers. Et on va se retrouver dans un système où les maladies vont devenir chroniques et vous risquez effectivement là de tomber dans un système, dans un cercle vicieux. Et je crois que c'est très important de le dire actuellement. Alors il existe effectivement, et j'arrêterai avec ceci, des moyens de prévention tout simples, c'est-à-dire qu'il faut absolument réduire les distances vis-à-vis des appareils électriques tels que radio-réveil et lampe de chevet. Ces appareils n'ont pas de prise de terre et se trouvent trop près de la tête du dormeur. Vous vous retrouvez avec des intensités de champs magnétiques de 10, parfois plus, milligauss, c'est-à-dire 0,1 microtesla, 0,2 microtesla au niveau de la tête du dormeur. Nous avons là un problème d'utilité publique, on nous impose une nuisance. Et de ce côté-là, je ne suis plus d'accord.
Oui, une nuisance qui peut être très variable, vous l'avez dit vous-même, Jean-Marie Danse, hors antenne tout à l'heure, en fonction de l'état du sol, de la structure du sol.
Absolument.
Oui. Vous confirmez un petit peu ce qui a été dit maintenant.
Exactement.
Oui, bien. Nous allons laisser la parole aux auditeurs, mais vous vouliez peut-être apporter un petit complément, Jean-Marie Danse.
Quand tout à l'heure, M. Massard a parlé des études, de l'ensemble des études, ça me paraît un peu facile. Il y a des études, comme nous l'avons dit, comme M. Massard l'a dit, qui sont sponsorisées, c'est-à-dire des études qui sont payées par des gens extérieurs, souvent des sociétés d'électricité ou des sociétés industrielles. Alors, je m'excuse, mais j'ai été assistant à l'Institut de pharmacie de l'Université de Liège et je sais très bien comment ça se passe. Il est un fait, c'est qu'on ne va pas marcher sur les doigts de pied du bailleur de fonds. Et on va essayer de ne pas nuire au bailleur de fonds. Ça, c'est une première chose. Alors, quand on prend les études dans leur ensemble, il est évident qu'il y a des études qui ne disent rien et qu'il y a des études indépendantes faites par des universités américaines, entre autres, suédoises. Il y a deux études qui ont été financées par le gouvernement suédois, par le ministère de l'Emploi suédois du Travail. Personne n'en a parlé de ces études-là. On en a, je me souviens d'une réunion avec M. Jacquet il y a 2 ans, on n'en disait rien. Et quand on questionnait les gens là-dessus, ils disaient « mais nous ne savions pas, on ne peut pas en parler ». Or, ces études étaient parlantes. Ça, c'est une première chose. Et l'État suédois en a pris fait. Maintenant, autre chose. Quand Electrabel dit « j'ai financé les recherches », c'est vrai. C'est vrai, et j'ai critiqué qu'on ne finance pas les recherches, mais je crois que c'était sous un autre angle qu'il fallait faire cela. C'est-à-dire ne pas organiser le sponsoring directement, mais dire à l'État belge ou aux organismes de recherche belges, en tant qu'association ou en tant que société d'État, dire voilà, je vous donne une somme de autant que vous répartirez vous-même entre différents centres universitaires et nous n'y touchons pas. Nous aurons le regard quand tout sera terminé, mais nous n'allons pas contrôler, nous n'allons pas suivre ces recherches. Mais... Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ici, on a subsidié les recherches directement
C'est faux. C'est totalement faux. Le fonds a été remis en main à un comité de gestion interuniversitaire et l'Electrabel n'intervient nullement dans le contenu, dans les étapes. Nous avons simplement demandé une chose, et c'est même positif, nous avons obligé les chercheurs à publier leurs résultats, quels qu'ils soient.
Voilà, je pense que la réponse était claire, Monsieur Jacquet.
Oui, Monsieur le maire, je voulais réagir à...
Réagissez.
Oui, merci.
Ça devient passionnant, je trouve.
Je voulais réagir à une phrase citée par M. Danse concernant les études suédoises. Nous prenons toutes les études en considération, mais les études suédoises ne sont qu'un des éléments de tout un ensemble. N'est-ce pas ?
Oui.
Et je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faut travailler. Il faut examiner tout ce qui se fait et nous verrons dans quelques années où on en est.
Bien. Alors, oui, je voudrais dire simplement, revenons à l'auditeur quand même, au consommateur, à celui qui va habiter à la maison. Est-ce qu'il y a quelque part une législation? Parce qu'ici, nous émettons beaucoup d'idées, on fait des recherches, des études, plus ou moins contestées, plus ou moins valables. L'avenir nous le dira, bien sûr. Mais est-ce que quelque part, l'État a légiféré en disant, voilà, il y a des normes vraiment à respecter au niveau de l'encadrement électrique d'une maison et des appareils que l'on y emploie? Parce que c'est vrai que les appareils sont devenus très, très nombreux dans les cuisines. Il y a les fours micro-ondes, il y a les sèche-linge, les machines à laver, les machines à laver, la vaisselle, enfin tout est électrique maintenant.
Oui, tout à fait. En fait, l'université suédoise a remis ses travaux et en fait, à partir de ce moment-là, il y a des normes qui ont été établies en Suède. Et il y a des normes qui existent qu'un appareil qui doit être vendu en Suède, doit correspondre à ces normes qui sont de 2,5 mégaux à 50 cm de l'appareil.
Oui.
Et même chose pour le champ électrique.
C'est vrai. Donc aussi ça, pour les ordinateurs qui font entrer en forme dans les maisons aussi. Hein.
Tout à fait.
Et les téléviseurs.
Tout à fait.
Et les magnétoscopes, ben tous ces appareils.
Voilà. Et donc ces normes commencent à être établies dans certains pays. Ce sont des normes, ce ne sont pas encore des lois. Il faudra que ça devienne des lois. Et nous espérons qu'une fois que la Suède aura pris ses lois, eh bien l'Europe prendra aussi des lois identiques. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, on oublie souvent de préciser, c'est que tous ces éléments polluants font partie d'un ensemble de cofacteurs polluants. Et c'est un ensemble important. Et je crois que l'étude suédoise a un intérêt considérable, c'est d'avoir essayer d'éliminer un maximum de cofacteurs. Elle a fait son étude sur des enfants en très bas âge. Donc théoriquement, ils ne fument pas encore, sauf si les parents fument, etc. On a essayé d'éliminer le plus de cofacteurs. Parce que c'est là où les polémiques s'installent.
Oui. Nous allons laisser peut-être la parole aux auditeurs maintenant un tout petit peu quand même, voir le type de questions que notre débat... Nous prenons tout de suite Jacques qui nous appelle de Carignan. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Michel.
Ça vous intéresse tout ce qu'on dit aujourd'hui dans...
Oui, et comment? Parce que nous sommes tous concernés, plus ou moins, ça dépend où on habite.
Oui.
Bon, par exemple, concernant les rayons telluriques, on a découvert que les anciens, les Romains et autres, faisaient paître des moutons dans la surface dans laquelle ils pensaient construire. Et 6 mois après, ils les tuaient et analysaient leurs viscères, notamment le foie. Et si le foie était malade, ils ne construisaient pas. Et maintenant, on a découvert pourquoi. Parce que justement, les rayons telluriques agissent sur notre santé.
Bon, réponse de notre spécialiste, nous en avons beaucoup aujourd'hui, c'est Michael Boll qui répond, architecte écobiologue.
Oui, donc aujourd'hui, on redécouvre la géobiologie, on redécouvre l'influence des veines d'eau souterraines, des failles, et des réseaux telluriques. Alors en général, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des veines d'eau souterraines, c'est le sourcier qui va les détecter avec son antenne, mais ce n'est pas de la magie, ce sont des phénomènes physiques. À l'aplomb d'une veine d'eau, on peut prendre des mesures, par exemple au niveau des rayons gamma et voir leur augmentation, les infrarouges diminuent, et le champ magnétique de la Terre est perturbé. Or, notre corps, lui, réagit au millième de la perturbation du champ magnétique de la Terre. Et c'est ça qui permet aux sourciers de découvrir les veines d'eau souterraines. Quels sont les effets? En général, c'est une fatigue plus importante de l'individu et une perte de l'immunité.
Donc toujours faire attention à l'endroit où on construit, vérifier qu'il n'y ait pas de cours d'eau souterrain.
Exactement. Et ce que nous...
Une eau stagnante ne pose pas de problème quand elle...
Si, une eau stagnante, ce sera le même problème, mais plus important.
Plus important.
Parce qu'à ce moment-là, l'ionisation négative de l'air est perturbée en surface.
Bon, alors peut-être les courants de Hartmann, c'est quoi ça? On entend
alors,
beaucoup.
Alors ce sont des réseaux telluriques, ce sont des murs invisibles qu'on a tous les 2 mètres à 2 mètres 50. Et ils font à peu près 21 cm de large. Seulement ils ne sont pas très nocifs pour la santé. Parce que vous imaginez bien un quadrillage de 2 mètres sur 2, il est presque impossible de trouver une zone non polluée.
Et l'orientation d'une maison, de la chambre à coucher, on dit toujours qu'il faut placer son lit d'une certaine manière. Est-ce que là aussi il y a quelque part des preuves scientifiques de ce qu'on avance ou de ce qu'on conseille?
Scientifique, non.
Non.
La manière dont on l'entend pas. Mais la pratique nous montre que lorsqu'on peut utiliser cette direction, eh bien le repos est favorisé.
Bien. Nous avons peut-être une autre communication en ligne, non? Luc, oui, sur la ligne 2. Allô, allô. Bonjour. Sur la deuxième ligne, est-ce que j'ai quelqu'un? Non, apparemment personne. Allô? Bon, est-ce que quelqu'un réagit maintenant, nous avons beaucoup de monde autour de la table, sur ce qui vient d'être dit sur ces fameux courants telluriques, Hartmann, Vendo et autres?
Bien.
Oui, Et toi?
Voilà.
C'est Benoît Loup. Hein.
Exact, oui. Je tiens quand même à préciser, quand on parle de rayonnement de Hartmann, moi personnellement, j'ai longtemps pensé que l'on pouvait les mesurer avec des détecteurs de champs magnétiques terrestres. Or, je n'ai jamais pu mettre en évidence leur présence. Pourtant, j'ai lu pas mal d'ouvrages réalisés par le docteur Hartmann, qui était médecin en Allemagne et réputé pour avoir mis en évidence ces réseaux. Ce que je dois dire, c'est qu'effectivement, entre l'ionosphère et la Terre, il y a des échanges électromagnétiques qui peuvent créer des ondes géostationnaires. Donc des rayonnements, effectivement certains types de champs naturels qui vont avoir, dans certains cas, peut-être un effet au niveau de la santé. Mais, en fonction de mon expérience que j'ai sur le terrain, je tiens à préciser que pour moi, ils n'ont pas joué un rôle aussi important au niveau des risques sanitaires que les champs électriques et les champs magnétiques de basse fréquence. Mais c'est la conjugaison de tous ces phénomènes-là, naturels et artificiels, qui vont provoquer peut-être des problèmes de santé ou aggraver un terrain pathogène.
D'accord. André est en ligne avec nous dans la région liégeoise. Bonjour André.
Bonjour.
Alors vous allez nous poser une question à propos des fours à micro-ondes, tout d'abord. Oui? C'est ça?
Oui, la communication passe très mal. Je n'entends presque rien.
Mais je vous entends très bien, c'est ce qui compte.
Bon. Je pense que vous parlez des micro-ondes.
Oui, c'est vous qui en parlez.
Oui, parce que j'ai entendu dire, disons, que la proximité des micro-ondes était néfaste pour les gens qui portaient des pacemakers, par exemple. Donc, si c'est néfaste pour ces personnes-là, c'est néfaste pour tout le monde.
Jean-Marie Dans, c'est vous qui répondez à cette question?
Non, il y a un phénomène important, ce dont ce monsieur parle, c'est l'effet métallique, c'est-à-dire que le pacemaker a une masse métallique, certains types de pacemaker. Et pour les anciens fours à micro-ondes qui avaient des taux de fuite assez importants, eh bien, il pouvait y avoir un phénomène d'échauffement du pacemaker. Il y a eu des accidents, d'ailleurs, qui sont relatés dans le Lancet, dans des revues scientifiques, j'en ai une partie à la maison. De là à dire qu'un objet métallique qui se trouve, qui va avoir un échauffement, on va pouvoir extrapoler cela à l'homme, non. Et c'est un autre genre, un autre type de pollution qui peut être engendré par le four à micro-ondes. Et entre autres, il y a une pollution, vous savez, on a beaucoup débattu de la mémoire de l'eau, il y a quelques années. Et on en débat toujours. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas Benveniste qui a démontré qu'il y avait une mémoire à l'eau. C'est une grande chercheuse de l'Université de Bruxelles, c'est Madame Kapelboot. Madame Kapelboot, qui était électrochimiste, a montré que certaines solutions aqueuses, lorsqu'elles étaient soumises à certains rayonnements, n'avaient plus du tout les mêmes propriétés au point de vue physico-chimique. C'est-à-dire que les réactions que cette eau activée, disons, entre guillemets, avait, n'étaient plus les mêmes que d'autres. Elle a publié avec Picardie, avec d'autres. Il y a eu des études faites à l'Université de Milan que j'ai toutes ces études. J'ai beaucoup étudié la question de la mémoire de l'eau au moment de la controverse benveniste. Eh bien, il y a une expérience qui vient d'être faite aussi à l'Université de Chaux de Vienne par le professeur Lübeck. Elle date de 89 et cette expérience montre que quand on chauffe, on hydrolyse dans des conditions extrêmement dures, avec de l'acide chlorhydrique, certains produits, entre autres des produits laitiers, eh bien, il y a une transformation de la D-proline, de la L-proline en D-proline. Or, cette transformation d'un acide aminé à symétrie gauche en acide à symétrie droite, eh bien, va faire qu'il devient neurotoxique. On a dit dans la littérature et dans la presse, j'ai entendu à la télévision, j'ai pas de télévision parce que je ne supporte plus parfois le monceau d'âneries qu'on peut raconter. Et j'ai relu les articles de Lübeck, il a publié à deux reprises. Il a confirmé ses recherches l'année suivante en disant c'est bien exact et maintenant je voudrais qu'on fasse la même chose avec la viande. Donc il y a deux aspects. D'abord, une eau qu'on réchauffe sous le four à micro-ondes, eh bien elle va recevoir une information. Ça, nous ne pouvons pas dire qu'elle sera toxique ou pas, nous n'en savons rien. Et la deuxième chose, c'est que quand on chauffe à température un peu plus élevée, c'est-à-dire à l'ébullition de l'eau, des substances protéiques, c'est-à-dire des protéines, des acides aminés, etc., eh bien, il y aurait, je dis bien, je suis prudent, il y aurait des modifications de structure. Encore une fois, c'est controversé, parce que d'autres expériences ont été faites aux États-Unis et démontrent le contraire. Alors il serait peut-être bon qu'on s'attache à refaire ces expériences, mais de façon très 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 rigoureuse. En tout cas, à l'Université de Vienne, à l'Institut de pédiatrie, les fours à micro-ondes sont interdits, je peux vous le dire.
Vous avez encore une question à poser, André, rapidement.
Je pense qu'on a parlé, disons, qu'une valeur de 0,1 micro Tesla.
Oui, on a donné des mesures.
C'est dangereux. Je crois qu'il y aurait tout d'abord la conversion à faire entre le Tesla et le Gauss. Hein. Je crois qu'il y a 100 000 d'écart. C'est-à-dire qu'un Tesla vaut 100 000 Gauss.
Retenez simplement, au point de vue toxicologique, c'est plus simple que 1 microtesla égale 10 milligauss. Avec ça, et 1 milligauss égale 1 millième de gauss. Avec oui. ça, on y est et on fait tout ce qu'on veut.
1 microtesla correspondrait, disons, à un courant de 0,5 ampères à 1 mètre de distance.
Presque, oui.
Donc, ce qui veut dire, ça peut être dangereux, alors.
Non, ne confondons pas, vous êtes en train de mélanger tout.
Mais on a parlé d'un point lumineux dans un salon, disons, qui se situe en dessous d'un lit.
Oui, mais il y a deux aspects, il y a le champ électrique et le champ magnétique. Quand Michael Boll vous disait tout à l'heure qu'il y avait une irradiation sur le lit, c'est sur le champ électrique principalement qui se basait. C'est une irradiation en volts par mètre, si vous voulez, du champ électrique à travers le plancher quand il n'y a pas de mise à la terre du lustre.
Voilà.
Si vous mettez une mise à la terre au lustre, vous n'aurez plus de champ électrique.
Ça, c'est clair. Nous allons rester là, je suis désolé, parce que nous n'avons plus le temps d'aller plus loin, mais de toute manière, on y reviendra certainement. Puis tous nos interlocuteurs sont toujours là à votre disposition. Si vous avez des questions posées, écrivez-nous à la radio, à Namur, RTBF Namur, service compris. On fera suivre le courrier et vous aurez réponse, bien entendu. Je vous remercie de votre participation, vous tous et vous toutes. Merci à Michael Boll, à Jean-Marie Danse, à Benoît Loupe, à Pierre Pagnaise, à Bruno Jacquet, à Philippe Massard et à toute l'équipe. Dans quelques secondes, les publicités, ensuite les informations de 10h, et puis l'équipe de Mons est là, Chouette Planète, pour prendre le relais avec René Michiels, tout souriant, ici même, au Palais 2 de Batibeau. Bon salon à tous. Salut. Du lundi au vendredi, sur Fréquence Wallonie. Michel Lemaire, bonne journée.